L'initiative locale avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Le 11 avril, c'était la journée mondiale de la maladie de Parkinson. À cette occasion, l'association France Parkinson organise un événement d'information et de sensibilisation le 24 avril dans la salle Édith Piaf de Mulsanne. L'association alerte sur une augmentation inquiétante du nombre de personnes atteintes de cette maladie. Bonjour Catherine Delis-Grindorge.
Oui, bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes déléguée départementale de France Parkinson. Alors pour commencer, deux chiffres concernant cette augmentation sur laquelle vous nous alertez. 25 millions de cas sont prévus d'ici 2050, soit plus du double du nombre de cas en 2021. Alors, au-delà du fait que c'est une augmentation impressionnante, si on arrive à déterminer le nombre de cas dans les prochaines années, c'est que des causes de la maladie ont été identifiées, du coup, Catherine Delis-Grindorge ?
Non, malheureusement, les causes ne sont toujours pas identifiées. C'est vrai que cette maladie a été découverte il y a plus de 200 ans, mais aujourd'hui, on n'en connaît toujours pas la cause. Donc, ce qui est forcément un handicap pour poser des soins et des diagnostics. C'est vrai que ces chiffres sont alarmants. Et la moyenne d'âge aussi qui baisse, qui est alarmante. Parce que c'est vrai que là, on a une moyenne qui est à 58 ans, mais ça ne reste qu'une moyenne. Si on prend, par exemple, en Sarthe, nous, notre plus jeune diagnostiqué était diagnostiqué à l'âge de 28 ans. C'est quand même relativement jeune. Mon mari, personnellement, a été diagnostiqué à 46 ans. Et dans nos contacts, nous avons une jeune femme qui a été diagnostiquée à 16 ans.
Donc en principe, ça touche plutôt les personnes âgées, mais dans les faits, pas forcément, quoi.
Pas forcément. C'est vrai que dans la tête des gens, quand on parle de maladie de Parkinson, on pense tout de suite à un vieux monsieur qui tremble. Sauf que, au jour d'aujourd'hui, quand on voit les chiffres, cette moyenne d'âge qui baisse, c'est quand même un signe alarmant, mais que malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. Et c'est une maladie qui est méconnue, puisque dans la tête des gens, on pense à tremblement, sauf qu'il y a quand même un malade sur trois qui ne tremble pas, et il y a quand même d'autres symptômes que les tremblements.
Oui, on va revenir d'ailleurs sur ces symptômes. D'abord, pour rester dans cette augmentation, donc baisse de la moyenne d'âge, et augmentation drastique dont on a parlé, qui s'inscrit dans une continuité, en fait, depuis 1990 seulement, 3 millions de personnes étaient touchées par la maladie. Et là, on a des prévisions de 25 millions d'ici 2050. Qu'est-ce qui explique en fait une augmentation aussi drastique ? Est-ce qu'on le sait d'ailleurs ?
Qu'on ne sait même pas expliquer. Peut-être plus de prise en compte par les professionnels de santé, que les généralistes envoient peut-être plus facilement maintenant vers un neurologue quand ils ont une suspicion. C'est vrai que pendant des années, on le constate, nous, au sein de la Sarthe, quand on discute avec nos adhérents, que pendant des années, il y a eu une non-écoute, si on peut appeler ça comme ça, des médecins généralistes qui pensaient que c'était peut-être le malade qui simulait, peut-être que le malade voulait vraiment une consultation qui n'était pas forcément justifiée, alors que le malade avait beau essayer d'insister auprès de son généraliste en lui disant « il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être qu'il y a une prise de conscience plus des généralistes ».
Et alors, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur la maladie ? Vous aviez commencé à dire que le symptôme du tremblement qu'on a souvent en tête, c'est pas forcément systématique dans Parkinson.
Tout à fait. Ça peut, pour commencer, pour certains, ça peut être une dépression, ça peut être la perte de l'odorat, la perte du goût, ça peut être, pour d'autres, ça va se manifester par des raideurs, des crampes. Ça va, oui, il y a tout un tas de symptômes qui sont vraiment... le panel est assez large et la liste est non exhaustive des symptômes. Alors, il faut quand même rassurer les auditeurs, un malade Parkinson n'aura pas forcément tous les symptômes annoncés, et heureusement.
Et donc, c'est une maladie neurologique, une maladie dégénérative. Est-ce qu'il y a un lien avec Alzheimer ou c'est vraiment deux maladies très différentes ?
Complètement, deux maladies complètement différentes. Ce sont deux maladies neurodégénératives toutes les deux. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative en France après la maladie d'Alzheimer. Donc, on ne touche pas les mêmes, on n'a pas les mêmes symptômes. Mais c'est vrai que cette maladie est méconnue, donc c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup pour faire de la sensibilisation dans les structures, donc telles que les EHPAD, dans les écoles de formation des infirmières, dans l'Institut de formation des ambulanciers. Et on va prochainement intervenir en entreprise parce qu'il faut qu'on arrête de penser que c'est un vieux monsieur, ça n'a rien de péjoratif, mais qu'il faut quand même que les gens soient alertés sur cette maladie qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge.
Oui, et parce que ce sont des symptômes aussi qui sont visibles et qui peuvent entraîner un isolement social, peut-être.
Complètement, parce que c'est avant tout, c'est la maladie de la lenteur. Parce qu'en fait, les neurones qui sont détruits, ce sont eux qui transmettent l'information. Donc forcément, comme il y a des neurones qui sont détruits, les informations arrivent beaucoup plus lentement. Donc les personnes sont beaucoup plus lentes dans leurs mouvements à exécuter les gestes. Et les neurones qui restent vont malheureusement aussi disparaître au fil des années. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, à être diagnostiqué le plus tôt possible pour être pris en charge par un traitement médicamenteux, mais aussi pratiquer de l'activité physique. C'est ce qui permet de ralentir. Actuellement, c'est le meilleur médicament qui permet de ralentir l'évolution de la maladie. Mais deuxième effet bénéfique, c'est que ça permet de sortir les personnes de l'isolement. Parce que, comme vous le disiez, le malade a tendance à s'isoler, à se replier sur lui-même. Le regard des autres qui le dérange. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Quand vous avez une démarche qui est un peu hésitante, on dit « Oui, bon, il en avait une bonne hier soir. » Donc voilà, les gens entendent parfois des réflexions qui sont très blessantes et ils le vivent très mal. Donc du coup, à un moment donné, malheureusement, ils ne sortent plus et ils restent isolés. Et quand il y a l'isolement, il y a un manque d'activité. Et là, la maladie, elle ne demande que ça, elle, pour s'installer, pour progresser.
Et par contre, cette maladie, elle applique une prise en charge. J'imagine, il y a un moment où on est peut-être plus autonome en tant que malade.
Effectivement, il y a des moments où la maladie va évoluer et où on va devoir être dépendant d'une personne de tiers, de maître à domicile, peut-être portage de repas. Ça peut être une aide à la toilette, ça peut être une aide au lever, une aide au coucher. En fait, les gestes du quotidien deviennent compliqués pour les malades assez rapidement, j'ai envie de dire. Pour eux, comme ils ont des raideurs dans les doigts, donc pour certains, pour ceux qui sont encore en âge de travailler, certains sont obligés d'arrêter de travailler parce que malheureusement, le travail et la maladie ne sont pas compatibles. Pour eux, la difficulté vient aussi pour boutonner une chemise, fermer une fermeture éclair, fermer les boutons de braguette, faire les lacets. Vous voyez, des petits gestes du quotidien, couper sa viande, ça devient compliqué assez rapidement, j'irais, dans la maladie. Ils le vivent très très mal et ça se comprend parce que vous devenez dépendant de quelqu'un, pardon. C'est jamais facile à vivre, hein. Forcément, c'est une perte d'autonomie, on voit qu'on diminue, parce qu'en fait, ils sont conscients de ce qui leur arrive. Ils sont conscients de l'état dans lequel de santé ils étaient avant, ce qu'ils étaient capables de faire. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne peuvent plus faire. Et puis, ils savent très bien vers où ils vont, donc que chaque jour qui va avancer, ils vont perdre un petit peu plus d'autonomie. Et ça, c'est difficile à accepter, ça s'entend.
Et alors, en France, on compte 45% de plus de 50 ans dans la population. Donc, la prévalence de Parkinson pourrait tripler d'ici les prochaines années. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, en fait? Est-ce que la France, elle dispose des moyens humains et techniques suffisants pour prendre en charge ces malades?
Alors là, vous mettez le doigt sur un sujet très sensible. En fait, l'association au niveau national se bat justement pour qu'il y ait des structures, parce qu'il y a très peu de structures qui peuvent accueillir. Alors, si vous avez moins de 60 ans, il n'y a aucune structure qui est capable d'accueillir un malade parkinsonien parce que ça ne rentre pas dans les clous, comme on dit. Quand vous avez plus de 60 ans, tous les établissements ne sont pas formés ou sensibilisés à la maladie de Parkinson. Donc, vous pouvez être... On a déjà entendu, nous, des personnels médicaux dire « c'est un Parkinson, on le met avec les malades d'Alzheimer ». Ce sont deux pathologies complètement différentes. Donc, il ne faut pas mélanger les malades. Donc, c'est ça. On en revient toujours à cette méconnaissance de la maladie, en fait.
Alors, une des causes identifiées de la maladie, parce qu'il y a quand même de la recherche qui est faite sur Parkinson, et donc une cause récemment identifiée, ce sont les pesticides. Ça veut dire que les agriculteurs sont particulièrement touchés par la maladie?
Disons que tout ce qui est dans le milieu agricole, que ce soit les agriculteurs, les viticulteurs, c'est reconnu en maladie professionnelle, donc pour ces personnes-là. Mais pourquoi il y a des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer au jour d'aujourd'hui, c'est que... Pour ces personnes-là, pour ces professions-là, c'est reconnu maladie professionnelle. Donc la recherche a avancé de ce côté-là, mais de l'autre côté, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits qui peuvent être nocifs et qui pourraient justement déclencher la maladie? Comme chaque malade est différent, c'est ce qu'on dit. On dit il y a autant de maladies que de malades. Donc forcément, ça complique les recherches derrière. En France, on a plein de centres experts disséminés dans toute la France. Il y en a 26. Et chacun travaille de son côté à essayer de trouver un traitement qui va pouvoir améliorer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à guérir cette maladie. On ralentit son évolution par des traitements, mais on ne, n'est pas en mesure de la guérir.
Et pour rester sur les pesticides, est-ce qu'on sait si l'impact des pesticides il est restreint aux agriculteurs ou si ça concerne aussi les gens qui habitent autour d'exploitation, voire les consommateurs de produits qui ont été traités par ces pesticides?
On peut se poser beaucoup de questions. Un pesticide, les personnes qui le manipulent sont plus exposées. Mais est-ce que les personnes qui sont autour ne peuvent pas avoir respiré ces produits-là? Alors, on peut se poser des questions, effectivement, comme vous dites. Les personnes qui sont autour de ces champs qui ont été traités, est-ce qu'elles n'en ont pas inhalé? Et est-ce qu'on ne peut pas faire un lien de cause à effet?
Alors, on note que la loi agricole de mars 2025, elle réautorise certains pesticides en cas de défaut de solution économiquement viable pour les agriculteurs. D'un autre côté, une stratégie nationale des maladies neurodégénératives devrait voir le jour d'ici juin, selon les annonces du gouvernement. Qu'est-ce que l'association France Parkinson préconise pour une stratégie efficace ?
Justement, l'association au niveau national milite pour justement interdire ces pesticides parce que on en connaît les effets dévastateurs et pour l'humain. Donc, mais faut-il être entendu par les pouvoirs publics qui sont en face? Donc, il y a des enjeux quelque part.
Est-ce qu'il faut se concentrer davantage sur une politique de prise en charge du coup, ou bien plutôt vers la recherche pour lutter contre la maladie? Qu'est-ce qui vous semble l'axe primordial?
Les deux. En fait, il faut des structures qui puissent accueillir, soigner, proposer un accueil à ces personnes qui sont malades Parkinson et qui deviennent de plus en plus dépendants. Et puis pour aussi avoir du répit aussi pour les dents. Mais il faut aussi que la recherche avance aussi, donc pour un jour trouver l'origine et puis pouvoir soigner cette maladie et l'éradiquer de notre planète. Mais je dois être chez les bisounours là.
Et du côté de nos voisins européens, est-ce qu'on est un peu plus avancé qu'en France concernant la recherche et des politiques de prise en charge?
Alors, si vous voulez, on a un peu, nous, contact avec des pays européens et au-delà même, puisque mon mari participe à des championnats du monde de ping-pong Parkinson. Donc, ça réunit à chaque fois 26 pays. Donc, ça nous permet justement d'échanger, de voir par exemple ce qui se fait en Allemagne. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est un petit peu beaucoup en retard par rapport à eux. Donc, sur la recherche, donc, les joueurs entre eux échangent sur leur traitement, sur les recherches, sur l'avancée, pour savoir un petit peu où ils en sont. Ne serait-ce qu'aussi pour les bienfaits du sport, de l'activité physique sur la maladie. En France, c'est reconnu depuis assez récemment, alors qu'en Allemagne, c'est reconnu depuis 2019, au Japon depuis 2009. Donc, vous voyez, on a quand même un sacré retard sur ces pays-là. Donc, mais je pense qu'on a... Le français n'est pas encore prêt à aller voir ce qui se fait à côté, peut-être par chauvinisme, j'ai peut-être tort, mais je veux dire, voilà, il faut s'ouvrir, il faut aller voir ce qui se passe chez nos voisins, on a des voisins à côté, il faut se servir de ce que les autres ont fait comme recherche et mettre toutes les recherches ensemble, se réunir autour d'une table et se dire, est-ce qu'on va arriver un jour à en voir le bout de cette maladie? Est-ce qu'on va pouvoir la soigner? Est-ce qu'on va avancer sur la recherche, sur les origines?
Et donc l'association France Parkinson organise, on le rappelle, une journée le 24 avril à la salle Édith Piaf de Mulsanne. Quel va être l'objectif de cette journée?
L'objectif de cette journée était déjà de faire connaître l'association au niveau des malades, parce qu'il y a des malades qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc on va présenter nos rôles, notre mission, nos activités. L'après-midi, il y a la conférence par le docteur Belin de l'hôpital du Centre Expert de Tours, du Centre Expert Parkinson de Tours. Et puis, on a aussi des stands avec des prestataires et des institutions qui seront présentes. Donc, par exemple, on a Sarthe Autonomie, on aura le CICAT, on aura Pôle Santé Sud. On a dans les prestataires, on aura des prestataires de matériel médical, des prestataires d'aide à domicile, des résidences seniors. Donc voilà, les gens pourront trouver des prestataires, des institutions et aller chercher des renseignements, de l'information et puis assister à la conférence l'après-midi. Le matin, donc présentation, mais aussi démonstration de notre activité Danse Parkinson. Donc, un petit groupe d'une vingtaine de personnes qui vont présenter leur activité, ce qu'elles ont fait tout au long de l'année. Donc, une démonstration assez sympathique.
Et l'entrée sera gratuite?
L'entrée est gratuite et c'est ouvert à tous.
Eh bien, je vous remercie Catherine Doligradorge, déléguée départementale de France Parkinson. L'événement de sensibilisation organisé par l'association, ce sera, on le rappelle, à la salle des fêtes Édith Piaf de Mulsanne, le 24 avril. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu.
L'initiative locale... avec Charlie Pless sur Radio Alpa.